Vous écoutez la web radio du Off en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose Radio. La web radio du Off.
On aurait tous aimé avoir une machine à remonter le temps pour rencontrer Elvis, le King. Il est mort en 1977. Je suis né en 1977 et je ne m'en consolerai jamais. Heureusement, il y a des petits bricolos qui sont venus au Festival Off d'Avignon nous présenter leur machine à remonter le rock. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, d'une part, il y a Kevin Gorette. Vous êtes le metteur en scène du spectacle. Et à vos côtés, il y a Thibaut Lavigne. Vous êtes musicien, si j'ose dire, leader du groupe qui est au cœur de ce projet, c'est ça ?
Leader charismatique, même, exactement.
Mais à l'image, on peut voir que vous êtes une paire de beaux gosses. Et ceux qui iront voir le spectacle pourront en dire autant, puisque vous êtes plusieurs comédiens sur scène, comédiens et musiciens d'ailleurs. Alors, on va en venir à ce spectacle, La Machine à remonter le rock, qui est joué au théâtre L'Arrache-Cœur à 22h04 précise. Est-il vraiment nécessaire que l'horaire du spectacle soit précis comme du papier à musique?
Oui, c'est important. En fait, cet horaire, elle a plein de significations. Déjà,
c'était pour pas gêner le théâtre à côté qui avait un spectacle en même temps. Du coup, on a décalé l'horaire. C'est aussi le nom de la boîte de prod, 22h04.
Ah voilà,
c'est pour ça aussi, c'est la blague. Et finalement, les gens retiennent bien. Et aussi, pour le papier à musique, évidemment. Ouais. Hein, on avait prévu ça. C'est pour ça, 22h04. Et ça fait bien rire les gens dans la rue. Voilà.
Très bien. Et donc, 22h04, il faut se retrouver devant le théâtre L'Arrache-Cœur avec son pass sanitaire, par contre, puisque la salle fait une centaine de places. Une centaine de places qui étaient largement occupées quand moi-même je suis venu vous voir. Et c'est vous jouer donc jusqu'au 31 juillet, dernière représentation, samedi soir. Alors, tous les deux, vous êtes intéressés à ce thème-là qui apparemment vous tient à cœur, mais votre rencontre est bien plus ancienne. Vous êtes des potes de lycée, en quelque sorte.
Ouais, on est des potes de lycée. On s'est rencontrés à Pau il y a une dizaine d'années. Et voilà, on a tous vaqué à nos occupations, on a fait de la musique ensemble, enfin pas Kevin et moi, mais Kevin a fait de la musique avec le bassiste du groupe, moi j'ai fait de la musique avec celui qui a fait de la vidéo, donc Igor, dans le projet. Il y a celui qui s'occupe de la communication qui a aussi fait de la musique, enfin, on a tous un peu fait de la musique ensemble, puis après on a vaqué à nos études, pas études, et puis on s'est re-rencontrés il y a 2 ans, enfin c'est même pas qu'on s'est re-rencontrés, c'est juste qu'on s'est réunis autour d'un projet qui est ce projet-là il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans.
C'est ça, presque 2 ans. Ouais.
Voilà. D'accord. Et donc, vous avez vaqué à vos occupations, autant d'occupations qui vous sont fort utiles pour l'organisation de ce spectacle, justement, puisque vous avez monté un groupe qui s'appelle Old John's Radio, en fait. Le groupe qui se trouve au cœur de ce projet musical, quand bien même vous n'êtes pas le protagoniste principal vous-même, Thibaut, puisqu'il y a, en fait, disons-le tout net, résumons un petit peu l'histoire. En fait, c'est un ancien animateur radio. Moi, je me suis projeté un petit peu dans ce personnage, hein, très très subjectivement. C'est un ancien animateur radio des années 60 qui crée cette machine pour revenir un peu au rock des origines. Et on voit 3 espèces d'humanoïdes, d'androïdes, vous-même Thibaut et vos 2 comparses au sein du groupe, qui viennent interpréter les grands classiques du rock. Et vous bougez un petit peu comme des robots, d'une certaine manière, on croit voir le groupe Kraftwerk avec ces androïdes un petit peu mécaniques qui interprètent, là pour le coup, de la musique électro. Mais vous, c'est du bon vieux rock auquel vous nous conviez, et vous y mettez finalement tout votre cœur, fut-il robotique, si je peux me permettre. Voilà. Alors du coup, comment vous est venue l'idée de ce scénario, qui en fait est une première mise en scène pour vous, Kevin Gorette?
C'est ça. L'idée, en fait, elle est assez collective dans le sens où les gars, quand ils ont monté du coup Old John's Radio depuis le début presque, hein, vous aviez cette idée du coup de faire un entre-deux entre un animateur radio qui pitcherait un peu un spectacle autour des titres du rock, mais c'était très très vague. Ça fait longtemps que vous aviez l'idée. D'ailleurs, chez eux, ils étaient en coloc les deux, ils avaient une énorme frise dans le salon avec toutes les histoires du rock pour bosser dessus. C'était assez dingue, et il y avait cette idée. Et en fait, un jour, il y a Pascal et Emma Chauvet qui rachètent L'Arrache-Cœur, donc c'était il y a 1 an. Ils ont eu le nez, ils l'ont racheté en février 2020, juste avant
la pandémie, bien joué.
Excellent. Ouais. Et du coup, entre-temps, je leur ai dit, ça serait cool de monter ce spectacle. J'ai appelé les gars, je leur ai dit, ça vous dit qu'on monte un spectacle? On n'avait rien d'autre que juste l'idée de ce vieux John qui a animé. Ouais. Et de là, après...
C'est-à-dire qu'on a su qu'on allait faire Avignon, il n'y avait aucun texte qui était écrit, on n'avait presque même pas d'idée, en fait.
Mais vous êtes fou. C'est un investissement financier considérable, Avignon, et vous étiez arrivé comme ça à la cool, vous.
Non, mais ouais, on est assez maboule. Et un jour, Kevin arrive avec l'idée de cette machine, Parce que nous, on a toujours eu cette idée de John qui est quelque part, qui passe des disques. Il était déjà central dans l'affaire. Et Kevin est arrivé un jour pour la première résidence d'écriture en ayant cogité dans la voiture en nous disant « Et si on lui mettait une machine et qu'il apprenait le rock'n'roll et qu'il recréait le rock'n'roll ?»
Avec des robots, ouais. C'est parti, ouais. Comme ça. Et les gars, après, sont partis 6 mois en écriture. Ils ont écrit le spectacle. À la base, d'ailleurs, ce spectacle devait être, en fait, il ne devait pas avoir de comédien sur scène. La partie jardin, du coup, de la scène aurait dû être
un
écran vidéo, en fait, avec un espèce de studio où on aurait vu le comédien à l'intérieur de cet écran, mais ça aurait été une espèce de synchro entre les vrais musiciens sur scène et cet écran, finalement.
Parce qu'on l'a écrit comme un film à la base, ouais.
Ouais, c'est un film.
Et on a pris la décision en fin d'écriture. Sur quelques retours qu'on a eu assez précieux, qui nous ont dit que ça allait pas être vivant, que ça allait pas être du spectacle vivant, et que c'était dommage parce que finalement les gens avaient trouvé que c'était bien dialogué et que y avait de la vie justement dans ces dialogues, et que le fait de mettre le personnage principal derrière un écran et même pas en présence physique, ça allait faire perdre énormément, et ça aurait pas été du spectacle vivant mais une autre expérience quoi.
Une autre expérience. Mais en l'occurrence, cet ami a été de bons conseils. Vous n'êtes pas les premiers à avoir eu ce genre d'approche artistique que finalement vous avez revu au dernier moment, puisque ce n'est pas ce qu'on attend à Avignon, en quelque sorte, si je peux me permettre de vous faire cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'effectivement, votre spectacle, le public était tellement enthousiaste, c'était vraiment, il y avait quelque chose de vivant sur scène, comme il y a même vous jouez un robot, que en fait, c'était tellement enthousiasmant que si vous aviez gardé votre parti pris initial, je vous le confirme, on aurait peut-être été déçus, finalement. Ouais. Donc, bien joué. Et par conséquent, l'aspect cinématographique, on va y revenir, mais vous-même, Kevin, ce n'est pas votre premier passage à Avignon, puisque vous avez déjà pu nouer des liens, notamment avec le théâtre L'Arrache-Cœur, même si c'est votre première mise en scène pour le Festival Off.
C'est ça, ouais. Moi, j'étais... en fait, pour un truc, on bosse avec le Bijou pas mal à Toulouse, une salle de concert. On fait toute leur com, on fait aussi de la prod de spectacle, on fait plein de choses. Du coup, moi, j'ai eu la chance de bosser pour le Bijou il y a 5-6 ans, et j'étais venu faire de la diffusion pour un spectacle qui s'appelle The Man from New York, qui est très très bien d'ailleurs aussi, qui est dans notre théâtre. Ça fait 5 ans qu'ils font Avignon. C'est un grand délire. Du coup, j'avais fait la diff pour la première fois. Donc, c'était la première fois à Avignon pour eux, pour moi aussi. C'était assez rocambolesque d'ailleurs, mais ça s'était bien passé. Et depuis, je n'étais pas retourné. Et là, c'est la première fois qu'on revient avec une prod, une mise en scène. Enfin, tout fait entre copains, c'est pas pareil quand même. Hein. C'est sacrément plus fatigant.
Et vous aussi, entre Pau et Toulouse, eh bien, vous faites un petit détour dans le sud par Avignon. Et on s'en réjouit. Alors, je disais, c'est pas l'aspect cinématographique est assez important dans votre cinéma, représentation, pardonnez-moi. Je m'embrouille dans les mots. Et tout ça pour dire qu'en fait, il y a beaucoup d'influences cinématographiques, ne serait-ce que dans la mise en scène. Une mise en scène où il y a énormément de trouvailles et où il y a un bricolage tout à fait considérable, puisqu'on se retrouve dans une espèce de caverne d'antre de savants fous, avec des appareils qui clignotent, bizarres, etc. On pense, en fonction des références, au jeu vidéo Fallout, on pense au film Retour vers le futur, avec Doc et sa cave absolument invraisemblable, dans laquelle Marty va faire quelques bêtises. On pense à des références comme ça venant de la culture pop, et je me demandais, mais qu'est-ce qui vous a influencé pour bricoler tout ça, le bricoler par vous-même, parce que c'est vous qui avez conçu les décors.
Ouais.
Bah, t'as dit deux références qui sont très justes. Hein. Fallout, voilà. Clairement sur l'écran, et Retour vers le futur. Dans
puis on a essayé aussi de faire des petits clins d'œil à l'univers steampunk. On s'est dit, ouais, il faut que ça soit une machinerie un peu folle. Et puis ouais, en fait, c'est que, comme vous l'avez dit, de la pop culture, donc des références que de l'imaginaire un peu collectif qu'on avait tous nous. Donc ouais, Fallout, ça marche assez bien. Doc aussi, je vois pas d'autres trucs, mais ouais, on voulait faire un atelier de savant fou, un truc, un espèce de truc intemporel, on sait pas quand il a commencé, quand ça va finir, ni où c'est vraiment.
Il y a aussi, je trouve, une petite pointe de Tim Burton dans l'univers, dans l'air qu'il y a dans ce spectacle, cette création de robots comme ça. Moi, ça me fait penser un peu à Edouard aux mains d'argent aussi, dans la symbolique un petit peu. Je trouve qu'il y a un peu ce sel, quoi.
Moi, j'ai un peu, ouais, je pensais que l'animateur radio, Old John, était un peu un démiurge qui ramenait des mondes à la vie, mais qui en même temps créait un petit peu comme la créature comme le docteur Frankenstein, créer une créature en quelque sorte. Il est tout le temps en train de tirer sur sa manivelle, et dans le vieux film Frankenstein, on voit le docteur du même nom faire la même chose. Donc c'est un geste qui est connoté, et je ne sais pas si c'est venu consciemment ou non à votre esprit, quoi.
Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, Non, je pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je pense que ce qui fait l'un des succès du spectacle, c'est que ça va piocher dans plein de références que les gens ont, que ce soit le rock'n'roll, que ce soit Frankenstein, enfin même le scénario en soi, il va piocher dans les choses connues en fait. Et je pense que tout individu qui voit ce spectacle se reconnaît dans plein de choses. Et ça fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles il parle aux gens, je pense. Justement, toutes ces petites trouvailles, toutes ces petites choses en fait, qui rappellent la pop culture.
Même si on n'a pas toutes les références, de toute façon, on s'y retrouvera parce que c'est tellement varié qu'on va forcément accrocher à certains détails. Je pense que c'est vrai. Et alors, ce spectacle ne serait pas possible sans le concours d'un comédien, en plus des trois musiciens du groupe Old John's Radio. Comment s'appelle cet homme-là qui incarne un petit peu ce que je considère être un démiurge, cet ancien animateur radio qui a vécu toutes les aventures possibles dans les années 60, il le raconte. Et qui en même temps est assez touchant dans son côté un peu grincheux à l'ancienne, et en même temps qui est capable de receler tellement de trésors, ne serait-ce que dans ses souvenirs.
Ouais, c'est Georges Daudignan qui incarne John sur scène, qu'on a trouvé et sur lequel on a fait un casting uniquement de voix à la base, puisque comme on disait, ça devait être un film et ça devait être une ombre derrière un écran, en fait. Enfin, bon, c'est une idée assez farfelue. Et il nous a envoyé...
C'est une silhouette assez impressionnante parce que lui, c'est un grand type déjà.
Ouais. Et donc, il nous envoie une démo de voix. Et on a dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il était OK pour faire le film. Et finalement, on lui a dit, non, mais ça ne sera pas un film, ça va être à Avignon. Enfin, on va le faire en réel, quoi, avec toi, si tu es d'accord. Et il a été d'accord et on en est plutôt content.
C'est assez fou. Et pendant le casting, justement, quand on a reçu plein de demandes, et c'est l'un des premiers à nous avoir envoyé un mail, il nous l'a dit, vraiment, je l'ai encore le mail, c'est ce rôle, il est pour moi, les gars, c'est fou, j'ai l'impression, machin. Et en fait, il aime, enfin, le rock, il écoute tout ce dont on parle le spectacle.
Ça fait partie de lui, ouais.
Ça fait partie de sa culture aussi, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça a été une vraie rencontre assez dingue et ça se passe, enfin, c'est assez fou.
Pote de lycée, puis rencontre via le thème du rock'n'roll. En fait, vous avez un chemin de vie, si je peux me permettre de reprendre cette métaphore là qui est remplie d'heureux hasards pour le coup, et pourvu que ça dure. Mais il y a un truc qui m'a un petit peu intrigué, c'est pas du tout une critique, c'est un choix de mise en scène, mais j'aimerais que vous l'expliquiez. L'histoire du rock, quand on pense à l'histoire du rock, et c'est bien le thème puisque le spectacle s'appelle La machine à remonter le rock, on pense évidemment des années 50, voire de la fin des années 40 avec l'invention de la guitare électrique, et le blues, tout ça. On pense à cette période là fondatrice jusqu'à aujourd'hui, puisque le rock, même si c'est plus une musique aussi populaire qu'elle l'a été, c'est encore une musique qui compte malgré tout pour les générations qui sont dans le public, et elles sont relativement variées. Par conséquent, je me demandais pourquoi vous êtes limité aux deux premières décennies du rock, c'est-à-dire la période du rock classique, la période finalement fondatrice.
Alors, pour plusieurs raisons déjà.
Parce que le glam rock, tout ça, le punk, c'est aussi intéressant.
C'est aussi intéressant, mais c'est aussi beaucoup moins universel. Parce que voilà, Elvis Presley, tout le monde le connaît. Même quand on va jusqu'à Jimi Hendrix, il y a vraiment quelque chose de populaire encore dans le rock à cette époque-là. Et aussi parce que à partir de 1970, en ayant fait des recherches pour l'écriture du spectacle et même pour constituer une setlist rien qu'en tant que groupe, c'est très difficile après de définir des branchages. Là, on a un arbre qui pousse avec un tronc très identifiable entre 50 et 60. Puis une deuxième ramification avec 60-70. Et à partir de 70, voilà, comme vous dites, on va avoir le punk qui arrive, le glam rock. Déjà, fin 70, on a les courants psychédéliques. Et là, c'est difficile de séparer, de savoir d'où vient qui qui va où. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais ça exprime.
C'est clair comme un solo de groupe psychédélique, si je peux me permettre.
Voilà, exactement. Ouais. Avec beaucoup de delay et du reverse.
Mais justement, venons-en à vous, vos origines musicales. Vous avez eu cette anecdote que je trouve assez croquignole tout de même. Moi, je me suis mis à la guitare en jouant à Nintendo Guitar Hero.
Ouais.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je jouais à Guitar Hero, j'aimais bien et j'étais pas mauvais. Et du coup, je me suis dit, bon, si j'essayais avec une vraie guitare. Et bon, là, ça a été autre chose.
Quelques déconvenues, je suppose.
Quelques déconvenues, assez mal aux doigts. Ce que je n'ai plus aujourd'hui, puisque j'ai une corne à toute épreuve. Mais ouais, puis finalement, j'ai rangé le jeu et j'ai joué de la guitare appris tout seul. Pendant, là, ça fait 10-12 ans que je fais de la guitare.
Ben, bravo, et puis de l'accord nous doit, hein, c'est pratique pour déterrer des vieux hits et exactement. Les remettre au goût du jour en quelque sorte. Alors on trouve en vrac, vous avez cité Jimi Hendrix, Elvis Presley, moi j'ai aussi beaucoup tiqué sur Little Richard notamment, qui est un incontournable, et puis quelques autres groupes des années 60, et alors des groupes, c'est pas du tout là encore une critique, des groupes américains ou britanniques. Pour des raisons en fait qui sont assez évidentes, c'est-à-dire que nous autres en Allemagne, en Italie, en France, on a découvert le rock aussi bien sûr, mais c'est venu plus tard et de manière un petit peu plus lente en quelque sorte, puisque les premiers artistes rock en France, je pense notamment à Johnny, finalement adaptaient des titres anglo-saxons pour le public français qui ne parlait pas couramment anglais. Et par conséquent, en France, il y a eu des choses magnifiques dans les années 70 avec Magma, tout ça, mais en même temps, c'est venu plus tard et ce n'était pas votre période. Donc du coup, vous vous limitez aux États-Unis et à la Grande-Bretagne et finalement au lien qu'il y a entre les deux. Quelque chose qui vous a sûrement un sujet, une migration de cet univers qui vous a touché, je pense.
Oui, et puis il y a vraiment quelque chose qui est dans l'histoire du rock, pour l'avoir étudié un peu, c'est que ça part très vite, très fort, mais ça dure très peu longtemps finalement aux États-Unis, ça meurt très vite parce que ça naît au cœur d'une Amérique puritaine et conservatrice, et que finalement, c'est cette Amérique-là qui va la pousser, mais c'est cette Amérique-là aussi qui va dire ben non, là c'est trop. Et où en fait l'Amérique va tourner le dos au rock en quelque sorte, et il y a plein d'événements, on explique pas mal ça dans le spectacle, il y a plein d'événements qui font que le rock va mourir aux États-Unis, et que en fait le fait que ça soit deux pays anglophones, les disques arrivaient quand même en Angleterre et donc ont formé toute une nouvelle génération de gens qui ont repris le flambeau et fait évoluer aussi la chose d'une manière différente, et qui ont c'est ça qui s'est passé à peu près, ouais.
Vous faites bien de le rappeler, parce que s'il n'y avait pas eu les petits Anglais pour récupérer le rock et lui donner une certaine pérennité, ça serait resté lettre morte. D'ailleurs, dans les années 70, avec le punk, on pourrait avoir peu ou prou la même démarche. Hein. S'il n'y avait pas eu des gens pour reprendre ce rock brut, abrupt, violent, et le remettre au goût du jour à la fin des années 70, par rapport à ce que faisait Iggy Pop dans les années 60, même schéma finalement. Et donc, c'est tout à votre honneur de le rappeler. Et par conséquent, c'est vrai que c'est un univers un petit peu, qui nous paraît un petit peu lointain, puisqu'il y a des références à Radio Caroline, par exemple, cette radio qui émettait dans les années 60 à partir d'un bateau pour contourner la censure britannique, justement. Il y a des références assez anciennes que beaucoup de jeunes gens n'ont pas connues. Je le disais, moi-même, je suis né en 77, j'ai une culture rock assez conséquente, mais je suis né l'année de la mort du King. Donc, il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui sont nés, qu'on appelle les millennials, qui découvrent le rock. Pour eux, c'est une esthétique, plus finalement qu'un son. Et en plus, ils ont tellement de choix, ils ne savent pas ce que c'est écouter un album, toucher du vinyle, etc. Donc, quand il y a du public de cette génération-là qui vient voir le spectacle, quel retour il vous donne, lui ?
Ils aiment, enfin, ils accrochent tous les retours des jeunes qu'on a pu avoir. D'ailleurs, c'est très drôle, la générale, on l'a fait en public du coup. Ça devait pas se faire en public, mais en tractant dans la rue, en fait, au fur et à mesure, il y a des gens qui voulaient venir, du coup, on leur a dit de venir. Et dans ces gens, il y avait un groupe de jeunes, de 8 jeunes, qui devaient avoir entre 20 et 24 ans, pas plus. Et ils sont sortis, ils étaient bouleversés, ils ont trouvé ça complètement dingue. Et je pense que vraiment cette musique, elle n'est plus passée à la radio, mais c'est une musique qui, moi j'aime à dire qu'elle flatte le tympan, quoi. C'est-à-dire que vu qu'ils ont tout commencé, qu'il n'y avait rien qui a été fait avant, ils ont un peu pris tout ce qui marche de manière assez facile pour l'oreille, des suites d'accords qui fonctionnent, enfin les Beatles ont été des génies pour ça, quoi. Du coup ils ont tout pris, ils ont tout fait. Et finalement, ça, même sans le connaître, ça plaît assez facilement. Et je pense que voilà, quoi, avoir un condensé comme ça avec une narration, ça accroche, quoi. Mais moi, je me tarde de les jouer devant, parce qu'on a pas mal de plans là, peut-être pour aller jouer dans des lycées, pour faire aussi un aspect pédagogique de cette histoire, etc. Et ça me tarde de voir justement les retours de lycéens, et je pense qu'ils seront bons.
Parce que je rappelle que ce n'est pas du tout un spectacle didactique, ce n'est pas une conférence, etc. C'est bel et bien une pièce de théâtre musicale avec des parties concerts assez importantes. Et du coup, c'est vrai que ça peut aussi faire le job, pour dire ainsi, auprès de lycéens, ne serait-ce pas forcément pour leur apprendre grand-chose, encore que, mais au moins pour leur mettre les pieds à l'étrier. Clairement. Et leur donner envie d'en savoir plus. Et là, ça devient ludique.
Justement. Ouais, j'ai une pote qui n'écoutait pas du tout rock, qui est venue voir les spectacles dans une des premières qu'on a faites, et elle s'est mise à écouter du rock'n'roll. Elle n'avait jamais écouté de rock'n'roll.
Ah, carrément.
Elle s'est mise à écouter.
Pour moi, c'est difficile à admettre qu'il y a des gens qui n'ont jamais écouté de rock, mais je suis peut-être un vieux con, allez savoir.
Non.
ça arrive,
ça m'arrivera tôt ou tard. Mais toujours est-il que là, je fais une petite comparaison qui n'engage que moi. C'est que vous finissez
votre histoire du rock finalement dans ce spectacle à la période psychédélique, et justement la période psychédélique qui a été un petit peu le terreau d'autres styles musicaux qui ont influencé notamment l'électro des années 90 avec la techno, etc. Il y a justement un autre spectacle qui s'appelle Rave 1995.
J'allais le dire.
Qui part de qui eux aussi sont de Toulouse d'ailleurs, du sud-ouest pardon, et qui eux aussi s'intéressent à la jeunesse de cette musique là comme vous le faites avec le rock dans un autre style. Et donc finalement le rock, votre spectacle se termine sur le psychédélisme, et bien eux ça commence par le psychédélisme.
C'est des copains, et clairement c'est ce qu'on s'était dit quoi. C'est vraiment la suite presque de l'histoire. Et en parallèle il y a aussi l'histoire du jazz qui est joué à Avignon, qui s'appelle Zage, qui est vraiment très chouette. Enfin voilà, ces trois spectacles sont un peu iconiques de cette période 50-90, tout ce qui a pu se passer pendant toute cette période en musique quoi.
En tout cas, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur l'histoire de la musique, il y a trois spectacles à aller voir là.
Ah, ouais,
vous pouvez faire la trilogie, c'est comme le Seigneur des Anneaux, c'est pareil.
Un anneau, ben, en l'occurrence, quelque chose qu'on aime voir tourner, ce sont les vinyles sur les vieilles platines, pour ceux qui en ont encore. Et bien de Nashville à Londres, en passant par Pau et Toulouse et Avignon, bien, vous nous faites le plaisir de redécouvrir tout ça avec ce spectacle, La Machine à remonter le rock, tous les jours à 22h04, pétante jusqu'au 31 juillet au théâtre L'Arrache-Cœur. Merci Kevin Goré, merci Thibaut Lavigne d'être venu nous parler de ce spectacle.
Merci à vous.
Grand plaisir, merci pour l'invitation.
On a des petites invitations, non ?
Ouais. Ah, vous faites gagner des invités.
Ouais. On peut faire gagner deux places pour. Je sais pas comment vous faites, mais on fait gagner deux places pour jusqu'à la fin de semaine.
Les auditeurs intéressés appellent le 06 52 82 01 31 et ils sauront et on leur dira comment aller chercher les places en question. Et donc c'était un spectacle avorté pour le Off 2020, vous nous le suggériez tout à l'heure. Eh bien, on vous souhaite que ça tourne à l'avenir. Vous en avez donné quelques pistes notamment. Et pour conclure cette interview, on va écouter quelques notes de musique qu'on peut écouter pendant le spectacle.